Voilà, et le titre de notre étude ce matin, c'est la communion au corps de Christ. Et vous allez trouver cette expression dans le passage que nous allons lire, la communion au corps de Christ. Donc 1 Corinthiens chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 22. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Quand il dit bien-aimés, bien sûr, il s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse à des frères, des gens qui sont sauvés, des gens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, qui ont demandé à ce que leurs péchés soient pardonnés et remis par le sang de Christ. Et après, il leur dit, fuyez l'idolâtrie. Donc, c'est possible, même un enfant de Dieu, d'être toujours avoir un petit problème d'idolâtrie. Un reste, quelque chose qui continue, donc cette idolâtrie va être un obstacle à cette communion avec le corps de Christ. Verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, donc c'est ce que nous venons de célébrer, la table du Seigneur. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Vous voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? C'était par le biais de Paul et de son équipe que l'évangile de Christ est arrivé à Corinthe, cette ville du point de vue moral, était assez corrompu. Aquilas et Priscille étaient déjà là avant que Paul arrive, et c'était des artisans dans la ville. Mais l'église de Corinthe est composée de personnes qui venaient d'arrière-plan très différents. Certains étaient israélites, mais d'autres étaient païens de plusieurs origines, et certainement de plusieurs origines géographiques, hein. Différentes cultures, pas seulement romaines et grecques, mais d'autres aussi. Hein. C'était les villes, c'était des points de concentration de gens qui cherchaient à se faire une vie. Et ces gens avaient reçu l'évangile de Jésus-Christ. Mais nous voyons au travers de cette lettre qu'ils avaient quand même rencontré beaucoup de difficultés à se défaire de ceux qui avaient semblé naturels avant. Il y avait beaucoup de choses qu'ils pratiquaient, qui leur semblaient, et ils ne voyaient aucun mal avec. Et quand ils sont venus à Christ, bien sûr, on vient à Christ tel qu'on est. Et donc après avoir reçu Christ, des fois, il y a des choses qui, tout d'un coup, on prend conscience de choses qui existent dans notre vie et qui peuvent exister. Il y a des choses qui nous ont paru à l'époque, qui nous paraissaient normales, naturelles, et on ne voyait aucun problème. Et tout d'un coup, au fur et à mesure qu'on découvre le Seigneur, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui créent des difficultés, des contradictions. Et donc, là, nous avons un cas d'une pratique qui existait, que certainement tous les Corinthiens pratiquaient, mais qui crée un conflit dans la vie spirituelle. Alors, voyons d'abord la nature de cette difficulté, hein, la difficulté, et parce qu'elle pas seulement qu'elle était une difficulté à la vie chrétienne, mais une difficulté à la communion avec le Seigneur, et donc communion avec les uns les autres en Christ. Alors, il semblerait que certains, oui, peut-être même un nombre important de personnes, avaient l'habitude de se rendre au temple païen quand les animaux étaient sacrifiés à la divinité sur l'autel d'une idole qui représente une divinité. Et il y en avait beaucoup à l'époque. Et après que le sacrifice soit fait, après que tout le rituel, eh bien, la viande était là, et il semblerait que la viande, après, elle était à vendre. Hein, on pouvait l'acheter et on pouvait obtenir la viande pour les repas. Hein, c'est là qu'on faisait leur course. Et donc, la viande était fraîche. Hein, on voyait qu'elle venait d'être sacrifiée. La viande est certainement de bonne qualité parce qu'on offre à Dieu, au Dieu, ce qu'on a de meilleur. Donc c'était certainement une bonne viande. Et puis l'apôtre Paul reconnaît aussi, comme nous l'avons lu au verset 10, pas 10, mais... Dix-neuf, il dit que dis-je donc, que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Il dit, c'est vrai, la viande, c'est de la viande, hein, elle est offerte, peu importe à qui elle est offerte, peu importe les gestes qu'un prêtre peut faire dessus, peu importe, ça ne change absolument rien. Hein. Pas plus que ce qu'un prêtre peut faire sur le pain et le vin pour le transformer dans le corps de Christ, hein, ça ne bouge pas. Hein, donc il a dit, non, c'est vrai que même un prêtre païen, mais il peut faire ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, les formules qu'il veut, hein, que ce soit le bismillah, que ce soit autre chose, hein, ça ne change rien à la viande. Mais, et c'est surtout vrai à quelqu'un qui n'a jamais fait partie de cette religion. Hein. Il dit, bon, la viande, je sais pas, peu importe par où elle est passée, qu'il l'a touchée, à partir du moment qu'elle est saine, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai, quelqu'un qui n'était pas dans cette religion, qui n'était pas dans cette pratique avant, eh bien, pour lui, ça n'évoque rien du tout. Donc, il est tout à fait neutre. Mais pour quelqu'un qui était, hein, qui avant, était un adhérent dans ce temple, qui offrait des sacrifices et qui le faisait vraiment sincèrement et de tout son cœur et qui rentrait dedans et tout ça, ben, de devoir, après être venu à Christ, de devoir retourner là, que ça quand même, ça évoque des choses, quand même. Et Paul dit, c'est un problème. Tu peux pas aller et puis être là et pendant tout le rituel, et puis ensuite tu achètes la viande et tu dis, voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais pendant un temps, tu étais dans le rituel. Et c'est vrai que, en tant que chrétien, nous n'avons qu'un seul Dieu. Regardez peut-être une page devant, 1 Corinthiens chapitre 8, et il nous parle de ces viandes sacrifiées aux idoles. 1 Corinthiens chapitre 8, et le verset 5 et 6, nous dit, l'apôtre Paul reconnaît, il dit, « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Il dit, oui, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a des êtres, des différentes choses qui sont appelées des dieux et que les personnes reconnaissent comme des dieux. Il a dit, bon, c'est vrai, mais pour nous, eh bien, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre. Et il y a Dieu. Il y a Jésus-Christ. Hein. Nous avons un seul Dieu et un seul médiateur, Jésus-Christ, l'homme. Et donc, l'apôtre Paul comprend ce problème. Pour certains, parce qu'ils ont un passé lié dans cette adoration, eh bien, c'était difficile de se défaire et de ne pas entrer dans le rite. Et puis, il comprend aussi que pour d'autres qui n'ont aucun passé avec cela, qui n'ont rien vécu, ça n'évoque absolument rien chez eux, qu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je vais vous lire la suite du chapitre, 1 Corinthiens 8, et à partir du verset 7. Il nous dit quand même, nous devons être sensibles à cela. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 7, nous dit, « Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Hein? » Certains, pour eux, ça n'évoque rien du tout, il n'y a que Dieu. Mais elle n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles, c'est-à-dire sur ceux pour qui ça a encore un quelque chose. Car si quelqu'un te voit, toi, qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Il ne prêche pas, il ne dit pas d'être des végétariens ou végétaliens. Seulement, il a dit, mais si il y a quoi que ce soit qui évoque des souvenirs du passé et qui peut être causer une pierre d'achoppement pour un frère, eh bien, ça ne vaut pas le prix. Christ a payé le prix fort pour le sauver. Ce n'est pas moi, par ma bêtise, que je vais le faire chuter. Hein? Même si je me sens tout à fait libre et de manger quoi que ce soit. Hein? Nous avions dans l'église à Saint-Denis des gens qui étaient d'origine bouddhiste. Et c'est possible... dans ces temples bouddhistes, aller, et puis on peut manger, il y a des repas servis. Après que tout ce qui a été servi, offert à l'offrande, à l'idole, puis ensuite, il y a des plats qui sont servis, c'est de la bonne nourriture. Mais quelqu'un qui est issu du bouddhisme, pour lui, il ne peut pas le faire, il a du mal. Tandis que quelqu'un qui n'a jamais connu, pour lui, il dit, bah, du riz, c'est du riz, hein. Peu importe ce qu'ils ont fait à ce riz. Mais si il me voit... Hein, moi, je n'ai pas d'arrière-plan bouddhiste, et donc pour moi, je peux manger n'importe quoi. Mais si lui a été sauvé de là, et puis dit, je peux pas, on ne peut pas aller ensemble, parce que pour moi, c'est à moi de m'abstenir pour lui. Hein. Et donc, c'est cette attitude que nous voulons avoir. Alors, ici, dans le chapitre 10, il y avait cette difficulté qui était là, qui réside chez ceux qui sont sortis de ce milieu religieux. Cette idole, ce rituel, est pratiquement... pour lui, il ne peut pas être là et ne pas rentrer dedans, parce que ça évoque tellement de choses. C'est comme si j'ai quelqu'un qui a un passé avec un problème d'alcool. Eh bien, quand je l'ai à table... Peut-être que je suis à l'aise de le boire, mais à cause de lui, je ne vais pas abstenir, je ne vais pas, même pas lui permettre de le sentir, pour ne pas évoquer quelque chose. C'est une manière d'être sensible, de respecter un frère. Hein. Et ce n'est pas le moment de lui dire, mais écoute, tu es en Jésus-Christ, hein, et voilà. Non, non. S'il a un problème, il a un problème, je le reconnais et je suis là. Hein. On les handicapés, on ne les rabaisse pas, on ne les critique pas, on les accompagne. Hein, jusqu'à ce qu'il ait pleine victoire, ou peut-être que ce sera toujours un problème pour lui. Pour certains, ça peut être une certaine forme de musique, ça peut être certain autre rituel, d'habitude, pour chacun. Et c'est à nous de le respecter. Et si il y a quelque chose qui vous offense, c'est à vous d'informer les frères, de dire, mais moi j'ai un problème avec cela. Nous ne voulons pas éveiller un loup dormant hein, dans la vie de quelqu'un. Parce que lui, parce que là, ça lui évoque des choses, il court le risque d'entrer en communion avec cette idole. Et c'est là la difficulté, c'est de comment être en communion avec une idole, puis ensuite de venir parmi les frères, et puis entrer, s'approcher de la table et être en communion avec le Seigneur. Il y a une contradiction. Et toute communion avec un autre Dieu que Dieu, hein, le Dieu de la Bible, si nous sommes des enfants de Dieu, pose difficulté. Allez dire à votre épouse que vous avez passé la soirée au restaurant avec votre ex, et voir si ça ne crée pas des problèmes. On ne peut pas, hein, on ne peut pas continuer la communion avec ce qui était et avec ce qui est maintenant. Et lorsque nous sommes venus à Christ et que nous avons été rachetés par lui, c'est afin de vivre exclusivement pour lui. Donc c'est là que vient la difficulté. Et nous devons le respecter, nous devons être conscients, l'apôtre Paul en parle, le Saint-Esprit l'a conduit de le traiter, et nous, nous représentons des gens qui viennent d'arrière-plan très différents, et nous devons faire très attention aussi. Parfois, et nous voulons croire à la sincérité de ceux qui allaient acheter cette viande, que c'était, il leur dit, c'est une idolâtrie, mais peut-être qu'ils étaient inconscients de cette idolâtrie. Donc, il y a la difficulté dans la communion, puis après, il y a cette idolâtrie inconsciente dans laquelle ce n'est pas seulement eux qui ont un problème, mais même je peux courir ce risque. Vous savez, le gros problème avec l'idolâtrie n'est pas la statue, mais ce qu'elle représente. Hein, c'est pas... Vous demandez à n'importe quel catholique par rapport à la statue de la Vierge, vous dites, vous croyez que c'est ça, c'est la Vierge? Je dis, non, ça la représente. Il n'y a qu'une seule Vierge. Hein, dans leur esprit, il n'y en a qu'une seule, la Vierge Marie, même s'il y a des millions de statuettes et de statues. Donc, ce n'est pas tellement la statue, c'est ce qu'elle représente. Et ce qu'elle représente, ben, en général, ça représente qu'une seule divinité. Vous savez, on trouve des statues qui représentent des anges. Il y en a un qui s'appelle Saint-Michel. Michel, c'était l'ange, hein, c'était un ange. Raphaël aussi, normalement, c'est un ange. Il n'est pas mentionné dans la Bible, il est mentionné dans les apocryphes, hein, mais voilà. Et d'autres représentent des hommes ou des femmes appelés saints, ou marabouts, ou autre chose. Hein. D'autres représentent des pouvoirs diaboliques. Vous savez, le culte des anges, le culte des démons, le culte des morts, ou des hommes, est à bannir complètement de la vie du chrétien. Il n'y a qu'un seul Dieu, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et nous devons tout autre culte à quiconque, peu importe. Parfois, il y a des mouvements où il y a l'homme, il est vivant, il est devant eux. Hein, ce gourou-là, il est l'objet du culte. Hein, donc, mais tout ça, ça n'a rien à faire avec la parole de Dieu. Même si se nomme chrétien, même on ne pas, il n'y a personne à qui on baise les mains, ni les pieds, ni rien du tout. On a un seul Père, c'est Dieu, et un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Nous ne devons pas adorer les anges, parce que les anges eux-mêmes le refusent. Dans Apocalypse chapitre 10, 14, verset 10, je lis. C'est Jean qui dit, et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Il a vu un ange qui était tellement beau, il a commencé à adorer, il a dit, non, toi, je ne suis qu'un ange, je ne suis qu'un serviteur, ne m'adore pas. Et puis quand... Les apôtres Paul et Barnabas entraient dans une ville et puis ils venaient de guérir quelqu'un. Alors tout d'un coup, les gens de la ville ont cru que c'était des dieux. C'était des dieux qui les visitaient, hein, Mercure et Jupiter. Et donc très vite, ils ont préparé un bœuf, et puis ils allaient offrir un sacrifice, ils allaient les adorer comme des dieux, des dieux incarnés. Et quand l'apôtre Paul et Barnabas ont compris cela, eh bien, ils se sont écriés « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Hein, » donc, les hommes, peu importe, apôtres, peu importe s'ils ont fait des miracles, parce qu'il suffit d'avoir fait un miracle pour être canonisé, hein, même s'ils ont fait... Ils ont dit « Non, ne nous adorez pas, l'adorez Dieu seul et personne d'autre. » Et nous ne devons pas adorer la créature au lieu du Créateur. Romains chapitre 1, versets 23 et verset 25, il dit, mais non, ils ont changé la gloire de Dieu et l'ont représentée par des hommes, des animaux, par des astres, par autre chose. Et nous ne devons pas adorer des démons qui seraient dissimulés derrière des symboles ou des tombes ou des icônes. C'est pas, on sait que c'est pas le tableau lui-même qui est quelque chose, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce monument ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette représentation ? Et nous devons faire très attention, parce qu'on ne peut pas et adorer les démons et adorer Dieu. Si vous pouvez trouver Habacuc, sinon je vais vous lire le passage, Habacuc chapitre 1, et versets 15 et 16, et nous avons un autre cas d'idolâtrie, c'est cet homme, c'est un pêcheur de poissons, hein, c'est sa profession, et grâce à son filet, eh bien, il vit, hein. Et voilà ce qu'il dit au verset 15. Ils les ont fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. Comprends. Hein, vous avez déjà vu un jeune garçon qui vient de pêcher un poisson ? On aurait cru qu'il a tiré $1 million. Il est tout content. Mais il dit, cet homme est content. Et verset 16 dit, c'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies. Car par eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Et il dit, si je vis, c'est grâce à mon filet. Donc, je vais offrir un sacrifice à mon filet. Et peut-être que ça peut paraître drôle, vous dites, oh, mais bon, ça, on ne fait pas aujourd'hui. Oh là là, il y en a beaucoup qui parlent comme ça. Vous savez... Il y a ceux qui disent aujourd'hui, ils mettent leur confiance dans leur contrat de travail indéterminé. Hein. D'autres, c'est dans leur talent ou leur capacité particulière. D'autres comptent sur leur syndicat, hein, pour leur garantir du travail et une vie. D'autres placent leur confiance dans une chose aussi évasive que la chance. Comme si la chance sourit toujours. On emploie l'expression, mais je ne sais pas, hein, la chance m'a souri. Et ça fait combien de fois dans ta vie qu'elle t'a souri ? Ça t'a suffi pour vivre ? Et puis il y en a d'autres, ben, pour lui dire, moi, c'est moi, je dépends de moi. Moi je travaille, c'est moi qui je vis, et c'est ego qui est leur Dieu. Et c'est à lui qu'il sacrifie. Vous savez, c'est de l'idolâtrie aussi. Hein. Dès que ça prend la place de Dieu, dès qu'on n'attribue plus la gloire à Dieu, dès qu'on ne remercie plus Dieu, mais on remercie quelqu'un d'autre, soi-même ou quelqu'un d'autre, eh bien, on est en train c'est une idolâtrie. Hein. C'est comme cet homme qui offre un sacrifice à son filet parce qu'il lui apporte du poisson. Mais est-ce qu'il a pensé à remercier le Dieu qui a mis le poisson dans la mer et qui en prend soin. Pour qu'il ait du poisson à prendre. Hein, tu remercies ton syndicat, mais tu sais, si tu n'avais pas la santé, ton syndicat, il ferait rien du tout. Hein. Pensons à remercier le premier, Dieu. Et peu importe de qui est le Dieu qui a été la base de notre confiance, il est nécessaire que l'enfant de Dieu ne communique plus avec lui, mais seulement avec le Dieu de la Bible. Je relis ce verset dans 1 Corinthiens 8, verset 6, il dit « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Il dit « Voilà, pour l'enfant de Dieu, c'est la seule pensée, et nous ne voulons pas entrer en communion avec n'importe quel autre, ni pour l'apparence, ni pour réellement. » Donc, ça crée des difficultés, ça crée des conflits. Parfois, ça peut être inconscient, mais nous devons évaluer nos cœurs, hein, voir si je vraiment en qui je place ma confiance. Et puis, bien sûr, il nous parle dans ce passage de 1 Corinthiens 10, il nous parle de cette communion au corps de Christ. Nous, à la base de notre communion avec Dieu, avec les uns les autres, bien sûr, c'est la mort et la résurrection de Christ, dont les symboles sont justement cette table du Seigneur, cette coupe qu'on prend et ce pain rompu que l'on prend, eh bien, représente vraiment la base de notre communion. Parce que c'est grâce au sang versé que nous pouvons être en communion avec Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est bon, parce qu'il est amour et parce qu'il pardonne que je peux entrer en communion. C'est parce que Christ est mort qu'il peut pardonner. Et qu'il peut entrer en communion avec lui. Les gens nous disent Dieu ne l'enverra jamais, personne en enfer, c'est un Dieu d'amour. Mais oui, c'est un Dieu d'amour, ça a toujours été un Dieu d'amour. Mais l'amour ne peut pas, il ne peut pas sauver rien que parce qu'il aime. Mais parce qu'il aime, il peut offrir son fils en sacrifice. Et le sang de son fils a coulé, et ce sang versé, c'est ce qui rend possible. Mais maintenant, si je refuse et je ne veux pas que ce sang. Je dis non, moi je vais me débrouiller autrement. Eh bien, il faut se débrouiller autrement, hein, et puis il n'y a pas de 36 solutions. S'il y avait d'autres possibilités, vous croyez que Dieu aurait offert son fils? Même s'il y avait quelque chose de difficile, hein, les serviteurs de Naaman vont lui dire, si tu avais demandé quelque chose de difficile à faire, tu l'aurais fait. Et c'est vrai, les gens, ils ont inventé des religions que c'est impossible à pratiquer pour essayer de gagner. Et quand Dieu leur offre gratuitement, il dit non, c'est trop facile, hein, moi je veux autre chose. Je veux participer, je veux un peu de moi dedans. Écoute, dès qu'il y a du toi dedans, c'est plus bon. Et donc, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Et il nous rappelle, à la fin de ce passage que nous avons lu, il nous dit, écoutez, nous voulons provoquer la jalousie du Seigneur. Dieu est un Dieu jaloux. Ça fait pas très bien parce qu'on ne connaît que la jalousie des hommes. Et la jalousie des hommes, en général, elle est égoïste. Et c'est parce qu'on est jaloux, parce qu'on veut tout pour moi. Tandis que Dieu est jaloux dans le sens qu'il ne veut pas partager sa gloire. Parce qu'on lui doit de l'adorer. Et il ne veut pas la partager avec quelqu'un d'autre. Il dit même dans un Exode chapitre 20, le premier commandement, il dit, écoutez, vous ne ferez point d'image taillée. Il n'a pas dit, vous ne ferez pas d'idole, vous ne ferez pas d'image taillée. Mais il dit, parce que je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas que tu partages ma gloire. Le veau d'or, vous savez comment il l'avait appelé? Aaron a dit, l'Éternel. Mais ce n'est pas parce que ça s'appelait l'Éternel que c'était bon. Il a dit non, je ne veux aucune représentation quelconque. Je suis le seul Dieu. Donc, Exode 20, versets 4 et 5. Dieu ne tolère l'adoration avec. Il ne partage pas avec un autre. Nous ne devons pas vivre une vie double, hein, comme celui qui est infidèle à son mariage et qui cache une partie de sa vie de l'autre. Vous savez, peut-être que d'un partenaire terrestre, on pourrait cacher des choses, mais pendant un temps, vivre une vie double, en général, se faire attraper n'importe comment, hein. Mais Dieu, qu'est-ce qu'on va lui cacher, hein? Comment vivre une vie double et croire? C'est presque une insulte. Que d'essayer de vivre une vie double devant Dieu. Parce que c'est presque comme dire, ben toi tu ne vois rien, tu n'es pas omniprésent, tu n'es pas partout, tu ne sais pas tout, tu n'es pas omniscient. Et ben, si à partir du moment que je pense comme ça, ben, je ne pense plus qu'il est Dieu, hein, parce que ce sont ses attributs qui le définissent. Et c'est vraiment insulté. Hein, c'est comme l'enfant qui... maman a dit de ne pas prendre des gâteaux, et il les prend devant elle. Comme si maman a des yeux, elle voit. Si tu te comportes comme si elle était aveugle, mais elle voit. Tu lui manques de respect. En plus, tu désobéis. Et nous ne pouvons pas vivre une vie double. Ce n'est pas parce que Dieu est amour et parce qu'il est patient qu'il faut le considérer comme la partie faible. Hein. Dans un couple, peut-être que l'épouse peut savoir que son mari vit une vie double, mais elle se dit, mais moi, je ne vais rien dire parce que je vais aller où, moi, si je fais un scandale? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais me taire, je vais essayer de supporter. Et ça existe, hein, beaucoup de femmes supportent des situations, ou des maris aussi, et supportent pendant longtemps. Mais Dieu n'est pas l'élément faible, hein. Il n'est pas celui qui dit bah, « je vais faire quoi s'il ne vient plus adorer mon église, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être tout seul à l'église ?» Non, non, Dieu n'est pas un problème, hein. Il ne vit pas dans la solitude. Il est suffisant, il est complet en lui-même. Et donc, vraiment, c'est nous qui avons... Et puis il l'a dit au début, il dit « je vous parle, puis c'est pas... Vous êtes des hommes intelligents, hein, vous êtes des gens. » Alors, comprenez que Dieu sait... Et on ne peut pas vivre une vie double avec lui. Donc être en communion avec quelque chose à côté, et puis ce matin j'ai écouté les informations et dit, ah, le grand sujet d'aujourd'hui c'est ce match ce soir. C'est la chose la plus importante en France aujourd'hui. Hein. Presque on a oublié le Tour de France, et presque on a oublié beaucoup d'autres choses, et tous nos malheurs surtout, et tout le fait qu'on n'a plus de travail, tout est pardonné. On va gagner ce match. C'est étonnant combien l'importance qu'une chose peut avoir. Et une fois que ça sera passé, peu importe comment ça termine, hein, j'espère pour le mieux, hein, je suis un peu français moi-même, mais peu importe comment ça termine, mais après quoi? On revient à la réalité. Hein, et la vie, elle sera ce qu'elle était un peu avant. Et donc, nous ne pouvons pas, hein, nous devons garder notre priorité sur Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important, le vivre cette priorité, pas seulement le dire, mais le vivre. Ce qui est important, ce n'est pas de conserver son image dans l'Église, mais plutôt que notre communion soit avec le sang et le corps de Christ. Nous ne voulons pas provoquer la jalousie du Seigneur. Sommes-nous plus forts que lui? C'est lui qui a besoin de moi ou c'est moi qui ai besoin de lui, hein? Parfois, on a besoin de se souvenir. Et puis, parfois, les chrétiens se comportent comme si c'était eux le centre et Dieu était là pour les servir. Et puis, il les remerciait pour le privilège de pouvoir leur faire un quelque chose. Dieu est prêt à pardonner l'enfant de Dieu, l'enfant repentant, et à le recevoir dans sa communion, dans la communion avec lui, la communion de son sang et de son corps. La communion ne doit pas être seulement avec les symboles, mais vraiment dans la pratique, hein, de tous les jours. Nous voulons vivre dans la lumière. Je vais pas développer, mais 1 Jean chapitre 1 nous parle, il dit, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en communion avec Dieu si vous ne marchez pas dans la lumière. Hein, vous pouvez lire ce passage, mais il dit, ou on marche dans la lumière et on est en communion avec Dieu, ou on marche dans les ténèbres et on n'est pas en communion avec Dieu. Et il s'adresse à des chrétiens, hein, il ne s'adresse pas à les gens du monde, il s'adresse aux chrétiens. Hein. Je suis sauvé une fois pour toutes, mais la communion, ça dépend de ma vie. Hein, ça dépend de moi. Lui, il la veut, mais c'est à moi de l'entretenir. Et l'entretien de cette communion se fait par la confession de nos péchés. Hein. 1 Jean chapitre 9, chapitre 1, verset 9. Hein, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc cette communion, on l'entretient en confessant notre péché. On l'entretient aussi par la prière. Et la prière, pas où c'est nous qui parlons, mais où on s'ouvre à lui aussi pour qu'il nous parle. Et puis aussi, bien sûr, dans la lecture de la parole de Dieu. Hein, c'est important et on vous a donné des petits des plans, mais ce n'est pas seulement de lire le plan, mais c'est le fait de lire la parole pour entretenir cette communion avec Dieu. Et puis, ce que nous voulons, c'est que la réalité de l'œuvre de Christ sur la croix ne s'éloigne jamais de nous, que ça soit toujours dans notre vision. Vous savez, quand on conduit une voiture, on a des rétroviseurs, et puis il y a un endroit quelque part, c'est plus ou moins large en fonction des voitures, mais il y a un angle mort. Dernièrement, quand je revenais de Bordeaux, tout d'un coup, il y a une voiture qui coupe les deux fils et passe devant. J'étais dans son angle mort, il ne savait pas que j'étais là, et puis juste devant comme ça, et puis il n'a rien vu, il ne dit même pas excusez-moi, il n'a rien vu, il ne savait pas que j'existais. J'étais dans son angle mort. Mais vous savez, dans notre vie chrétienne, il ne faut pas que Jésus se retrouve dans l'angle mort. Il faut se débrouiller, il faut changer de position, tout ça, mais pour qu'il ne soit pas dans l'angle mort, il soit toujours dans notre champ de vision. Et la croix de Christ doit toujours être là, dans notre champ de vision. Et que le Seigneur nous aide. Et si nous sommes enfants de Dieu, faisons tout pour entretenir cette communion, qu'il n'y ait pas de conflit, d'incompatibilité dans cette communion avec le Seigneur. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, ou si vous le connaissez, mais vous n'avez pas encore fait ce pas vers lui, eh bien, faites-le. Hein, il y a tout à gagner. Et le Seigneur nous veut. Le Seigneur a tout fait pour que ce soit possible, pour pouvoir nous pardonner et nous délivrer. Et puis après, c'est une autre vie, mais c'est une vie qui est pleine et sûre et pas sans difficulté. Hein. Je serais menteur si je vous disais qu'il n'y a plus de problème une fois qu'on reçoit ce Christ, mais on n'est pas seul dans nos problèmes. Hein. On sait que ça mène quelque part. On sait qu'il a un but qu'il veut accomplir. Et il n'y a jamais quelque chose que le Seigneur permet qui soit gratuit. Hein, c'est intentionné avec le Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur pour cela, surtout pour sa croix, et puis nous évaluer nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Je vais prier, puis ensuite on aura un moment de silence où chacun pourra voir pour lui-même s'il n'y a pas une idolâtrie dans sa vie, quelque chose qui soit incompatible avec cette communion, qui rend la communion avec le Seigneur difficile. Donc, prions.